Gisèle Brun
et Patrick Subreville vous présentent
Les Aventuriers des Lettres.
Bonjour. Eh bien, bonjour à tous. Et je dis bonjour aussi à Jimmy, bien sûr, qui est en aux commandes. Bonjour, Jimmy. Et par la pensée à Gisèle aussi, qui a fait une chute et donc qui s'excuse et à laquelle nous souhaitons un bon rétablissement. Pour venir au studio, vu ce beau temps, j'ai choisi de partir à pied. Je suis parti de la Grande Poste. Et en face de la Grande Poste, nous avons le monument aux morts. Bien sûr, tout le monde, tous les Burgiens et Bressans connaissent. Puis derrière, il y a l'histoire des Quinconces, appelée maintenant quoi, Simone Veil, Veil avec un V, V-E-I-L. L'homme politique, la femme politique, bien sûr, bien connue de tout le monde, à ne pas confondre avec la philosophe Simone Veil, mais son patronyme s'écrivant avec un W, W-E-I-L. Et puis, il y a aussi un jardin d'enfants, un jardin d'enfants. À cette heure-là, il n'y en avait pas, peut-être cet après-midi ou alors l'autre jour. Et puis, il y a un monument aussi que les Burgiens connaissent, ou peut-être qu'à force de passer, ils ne voient plus. C'est un monument qui a été érigé à l'initiative des amis d'Edgar Quinet, car nous parlons aujourd'hui d'Edgar Quinet, né à Bourg, bien sûr. C'est un nom illustre, et en hommage à ce grand homme des lettres, natif de Bourg, 17 février 1803, eh bien, la ville a donné son nom à une place. Nous connaissons la place Edgar Quinet, à une rue que j'ai emprunté, à un lycée, lycée Edgar Quinet, et lui a levé deux statues et un monument. Le monument dont nous parlons est de deux statues. Ce monument, on pouvait y revenir maintenant, on va le faire tout de suite, car il a été érigé en 1970. Il est situé donc au jardin des Quinconces, face à la Grande Poste, et il est tout près du centre-ville aussi. C'est l'œuvre d'un nommé Marcel Maillère. Si vous le regardez bien, il est constitué d'un mur en pierre de Bourgogne, gravé de titres et de dates d'œuvres, car c'est un grand écrivain que Quinet, beaucoup oublié, méconnu, c'est dommage, bien que cette année ce soit le 220e anniversaire de sa naissance. Et la pierre maîtresse, si l'on peut dire, est complétée de deux blocs de granit noir, dans lesquels, si on peut dire, émerge le visage d'Edgar Quinet, un visage un peu sévère, un peu austère, qui est sculpté en haut relief, et le tout est agrémenté de citations. Voici pour ce premier monument. Mais il faut dire aussi que, bien avant, il y a eu, au même endroit à peu près, car il n'y avait pas le monument aux morts, il y avait autrefois une statue. Une statue réalisée par le sculpteur Aimé Millet. Elle a été érigée en l'honneur d'Edgar Quinet, inaugurée en 1883, et elle a été déplacée en 1925, puisqu'il y avait le monument aux morts, donc après la Grande Guerre. Elle a été déplacée place Edgar Quinet pour permettre l'édification du monument aux morts, que nous devons à Alphonse Muscat. En 1943, eh bien, la statue est enlevée par les Allemands qui la fondent pour en récupérer le bronze. La même chose arrivera à la statue du général Joubert qui était dans la cour de la préfecture. Ils ont épargné quand même le docteur Bichat qui ausculte un enfant et qui est placé maintenant sur le bastion. Le socle est en pierre. Il a été très souvent, très longtemps, il est resté sur cette place Edgar Quinet, sans rien. Puis elle a disparu, puisqu'on a ensuite remplacé le tout par la visirette. On l'a retrouvée en 1987. Et, chose normale, il est désormais installé dans la cour du lycée Edgar Quinet. Et à l'occasion du centenaire de l'établissement, un nouveau Quinet a été en ciment aluminé, l'œuvre de Martine Claire a été créée, si bien que Quinet, qui est une statue debout, bien installée sur ses deux jambes, et qui est là, silencieux, et qui observe les nouvelles générations qui viennent s'instruire. L'autre Quinet est un artisan de la République, un artisan de la République, un écrivain, on dirait inclassable, un philosophe, un historien, un républicain, défenseur des libertés. Il a marqué son temps. C'est un Burgien illustre, c'est un Bressan bien connu, c'est un Bressan, c'est un Parisien, il y a une station de métro à Paris, Edgar, il y a un lycée aussi, un boulevard. Quinet a été vraiment de son époque et il a marqué son temps par tous ses travaux. Et même Victor Hugo avait dit « Vous êtes un maître de l'esprit, aucune parole ne dépasse la vôtre ». Il a passé son enfance à Bourg-en-Bresse. Il a passé son enfance puisqu'il vit le jour à Bourg dans l'hôtel Varenne de Fenille, actuel collège Saint-Pierre, rue Samaritaine, dans le centre-ville. Ensuite, les parents ont habité ensuite à l'hôtel de Meillonnat, disons H2M. Ensuite, une année rue des Ursules, qui était rue des Casernes de nos jours. Et puis aussi, après, la famille a dû quitter Bourg pour s'installer à Charolles, en Saône-et-Loire. Il est revenu de ci, de là, à Bourg-en-Bresse. Mais aussi, et c'était surtout, la famille possédait, une gentilhommière, pas un château, une belle maison à Sertines, tout près d'ici. Et donc, pour lui, Sertines, ce sont des souvenirs inoubliables. Inoubliables, et parce que là, il était au coin dans la nature, avec sa sœur Blanche, dans ce village, un des points les plus cachés qui fussent en France, et peut-être en Europe, n'avait pas-t-il peur d'ajouter. Il partage les occupations des petits paysans. Il est éduqué par une mère aimante et cultivée. La mère sera très, très présente et très importante pour lui. Son père est commissaire aux armées dans l'armée du Rhin, donc il est rarement à la maison. Ensuite, la famille sera retrouvée, recomposée, si on peut dire, à Charolles. Mais au début, Quinet passe toute sa tendre enfance auprès de sa grand-mère, une grand-mère paternelle, qui était un peu acariâtre, qui râlait, comme on dit. Mais dès qu'elle le vit, peu après sa naissance, elle déclara « il aura de l'esprit ». Il a été baptisé le 18 février à l'église Notre-Dame. Et la mère était très importante pour lui, et la mère, prénommée Eugénie, a éduqué cet enfant, c'était le fils aimé, on va dire, d'une femme qui était positive, d'une intelligence très riche, très souple et très variée, d'un caractère droit, loyal. Le père était un peu sévère, pas austère, mais enfin, il était volontaire. Il était engagé dans l'armée, volontaire et empreint de probité. Edgar a toujours passé son enfance et son adolescence à Sertines, à quelques kilomètres au sud de Bourg, tout près de la forêt de Seillon, donc à la campagne. Toujours la pleine liberté et souvent en pleine solitude, apprenant une indépendance instinctive et irréfutable qu'il aura toute sa vie. Très tôt, il a manifesté un goût affirmé pour la liberté d'expression et une grande prédilection pour la littérature. Chose importante, sa maman est de religion protestante. Elle inculque à ses deux enfants le goût de la culture et de l'étude et même un sentiment religieux très élevé et très vif qu'elle éprouve pour elle-même. Mais les enfants seront élevés dans la religion catholique. Elle laisse donc aux prêtres les formalités de convenance. Mais elle est l'apôtre, selon l'esprit de ses enfants, si on peut dire, surtout de ce garçon. Elle lui enseigne la fréquentation de la Bible. De là, une lecture fréquente et appliquée, expliquée, d'où la découverte d'un style et surtout d'un vocabulaire formateur pour le futur écrivain. Donc, par cette mère protestante, née à Pontarlier, originaire aussi par sa famille de Genève, Edgar est préparé et sera toujours presque instinctivement préparé à appréhender, à saisir une mentalité d'un grand voisin qui partira et qui fera toute sa grande vie, la mentalité luthérienne allemande. Et par ce côté maternel, et marqué par le romantisme allemand, il aimera ce pays. Même il la déchiffrera, il essaiera de la comprendre, il s'offrira beaucoup de la voir prendre une direction funeste, vers une Prusse tout aussi luthérienne, certes, même mettant cependant ses qualités vers une ambition politique et dominatrice, car l'histoire de la Prusse diverge de celle de l'Allemagne. Et cela fait le tragique de cette histoire, car les Français ont toujours englobé l'Allemagne et la Prusse, pour eux ça ne fait qu'un, en réalité il n'en est absolument rien. Il faut savoir que la Prusse, sonnée par sa défaite infligée par Napoléon à la bataille d'Iéna le 14 octobre 1806, a eu vraiment une grande défaite. Elle a pris presque, on pourrait dire, une raclée magistrale et Napoléon a pu entrer à Berlin le 27 octobre. Mais la Prusse a su se reprendre, a su rebondir, a su se renouveler et c'était le pays des réformes. Donc on faisait beaucoup de réformes, ce qui aidait le rebond. Et puis on s'est aperçu ensuite que cette Prusse fallait compter avec elle, car sur le plan européen, elle avait toute sa place et elle occupait toute sa grande place. Il faut savoir aussi que par sa mère, il a donc intégré l'importance de la religion dans les pays germaniques, même en France aussi, plus tard, s'il sera de tendance anticléricale, comme son ami l'historien Michelet. Il gardera quand même une proximité importante près de la spiritualité et sera toujours, n'oubliera pas les leçons et l'influence maternelle. C'est un surdoué, on va dire. C'est un surdoué qui travaille très bien. Il sera élève au collège de Bourg, le lycée Lalande. Ensuite, il partira au collège de Lyon, c'est-à-dire l'actuel lycée Ampère. Il passera deux bacs en lettres et en sciences. Il sera bachelier S-lettres. Ensuite, il ira étudier. Son père aurait voulu qu'il prît une autre voie, une autre direction. Mais non, il voulait qu'il fasse un peu de droit. Il en fit. Il étudia les lettres, il étudia l'histoire et les langues étrangères, le latin grâce à un brave curé, la langue anglaise aussi, ce qui lui permettra de traduire un livre extraordinaire qui, pour lui, va décider de sa voie, le livre du philosophe Herder, la philosophie, les idées sur la philosophie de l'histoire de l'humanité. Mon Dieu, que c'est compliqué. Et le livre lui est prêté quand il a une bonne vingtaine d'années par un beau-frère, qui est d'ailleurs un Écossais nommé James Smith, et qui lui prête ce livre, voyant que le jeune Edgar a beaucoup d'or qu'à son arc. Et donc, toutes ses cordes vont être mises pour traduire. Et il va vouloir traduire ce livre, qui est rédigé en anglais. Il va le traduire en français, ce qui n'est pas évident. Donc, il connaissait bien la langue anglaise. Mais se disant, sachant que Herder est allemand, il voudra apprendre la langue allemande pour être plus fidèle aux questions de traduction. Donc, il va se mettre tout seul à apprendre l'allemand pour le parler tant bien que mal, mais il y arrivera bien à force de travail, et surtout à l'écrire. Et il va fournir un travail très, très important. Mais heureusement, il y a les moments de repos, il y a les souvenirs. Et souvent, dans sa vie, quand les choses iront plus ou moins bien, quand la fortune sera moins bonne, quand la foi même aussi vacillera un peu, il se rappellera lui-même ce qu'il disait en pensant à Certine. « Je me souvenais de l'époque où le nom de Dieu m'est devenu réellement familier. » C'était à l'ombre, je le placerai dans le doux printemps de Certine. C'était à l'ombre des fleurs, des abeilles, à l'ombre des tilleuls et des saunes. C'est là que je me suis fait une santé pour le moral et en même temps qui m'aida toute ma vie. Donc pour lui, Certine, c'était quelque chose, c'était comme un petit paradis qu'il aimera à continuer et à travailler. Les parents vont quitter Bourg-en-Bresse, pour aller à Charolles. Et très tôt, notre Edgar s'éprend de la littérature. Sa première lettre, car il écrira de nombreuses lettres à sa mère, sa première lettre est datée du 22 octobre 22 octobre 1806. Il est aux vendanges à Jasseron et il a à peine 1806, d'autres disent 1808. Il a 5 ans, on va dire, et avec une plume d'oie, il va rédiger une petite lettre adressée à sa mère. Après, il va continuer et les premières lettres sont intéressantes car elles nous montrent un jeune Edgar qui est très observateur de la situation locale, régionale et plus tard politique. Edgar vagabonde toujours, va se promener avec sa mère. Eugénie Quinet est heureuse, elle le garde auprès d'elle. Elle qui s'impose de lui donner une bonne éducation, un peu austère, mais là, elle a de bonnes occasions de s'en faire un compagnon. Les échanges sont fréquents et il se trouve à l'école aussi de la vie avec sa mère. Peut-on lire cette lettre rédigée ainsi? Un après-midi de printemps 1812, nous étions à Charolles, en Saône-et-Loire, elle allait en grande toilette à une réunion de fête et m'avait prise avec elle. Comme toujours, quand nous étions ensemble, nous avions peine à modérer notre joie. La beauté, l'éclat du jour l'augmentaient encore. Tout à coup, au détour de la rue, débouche en plein soleil une longue colonne de spectres qui marche à la file hâve, affamés, presque nus, défaillant, mourant à chaque pas. C'étaient des prisonniers de guerre espagnols qui traînaient après eux tous les maux de la guerre. Quelques-uns de ces moribonds s'approchèrent de nous en tendant leurs mains. À la vue de ces misérables, ma mère fut saisie d'un remords de se voir si belle. Elle leur jeta sa bourse et rentra chez elle. Elle quitta bien vite en pleurant ses habits de fête, qui lui faisaient horreur depuis qu'elle avait vu de telles calamités. Ce spectacle me poursuivit longtemps. Il s'y ajouta le lendemain une sorte de fièvre jaune que cette malheureuse bande avait répandue partout où elle passait. Notre petite ville en resta comme pestiférée pendant le printemps, l'été et l'automne de 1812. Chaque matin, j'allais voir les cadavres que l'on entassait tout vêtus par monceaux dans un vaste chariot à la porte de l'hôpital. Et j'en éprouvais aucun saisissement à cette vue. L'imagination dormait encore. Un peu plus tard, 1814, voilà Edgar à 11 ans et le petit garçon est un guetteur aux portes de la ville car nous sommes envahis par des troupes autrichiennes, même hongroises, et donc les enfants doivent avertir leurs parents de l'arrivée de l'envahisseur. Est-ce que je sentais ce qu'il y avait de solennel en de pareilles heures, même dans la plus chétive bourgade telle que la nôtre? Je sentais au moins que rien de semblable ne s'était passé depuis que j'étais au monde. Il me semblait que j'assistais à un tremblement de terre et que la dernière journée du monde approchait. Je regardais. Enfin, je vois une longue, interminable file de cavaliers jusqu'au bout de l'horizon, couverts de longs manteaux blancs car il pleuvait. Ils venaient lentement, en silence, les deux rangs écartés aux deux bords de la route. Comme ils n'avaient rien de menaçant, j'attendis qu'ils fussent tout prêts pour rentrer à la ville et annoncer leur arrivée à ma mère. Après ces examens, il a son baccalauréat, il va aller étudier à Paris. Nous avons vu le droit, l'histoire, la philosophie. Il s'en sort pas trop mal, il travaille, c'est un bûcheur, on va dire. Et ensuite, il est l'auteur de cette traduction qui va faire merveille, même il va envoyer un exemple à Goethe, le grand écrivain allemand, et qui aurait pu le recevoir, mais la maladie étant arrivée, la visite n'a pas été possible. Mais enfin, il a eu les félicitations de l'écrivain allemand. Et puis plus tard, il va décider, pris par cette traduction, de le pousser un peu pour aller voir au-delà, pour aller voir outre-Rhin. Il sent peut-être que son avenir se trouve dans ce pays, grâce à sa traduction, dont il était saint imprégné, et il décide de partir et de raconter à sa mère le voyage. Strasbourg, 28 septembre 1826. Ce jour-là, je suis arrivé. Vite, je me hâte de franchir le pont de Kehl pour écrire à ma mère. Je peux annoncer que je suis en Allemagne, avec la frontière symbolique du Rhin. Je m'installe vite à Strasbourg, où le contact avec la cathédrale est un pur ravissement. J'y passe des heures jusqu'au moment où je vois sous ses yeux les sculptures de pierre s'animer. Dans l'enthousiasme, je commence une étude sur Bossuet, dont on m'avait parlé à Bourg au collège. Je fréquente assidûment cet auteur et soudain, je m'en ressens très proche. Je peux m'étonner de ce choix lorsqu'on se rappelle la sensibilité protestante de ma mère. Pourtant, le goût pour l'éloquence religieuse est tel chez lui qu'il ne peut, je ne peux pas connaître ni oublier cette beauté des oraisons funèbres. Et le 7 octobre, il continue à écrire à sa mère « Ne vous inquiétez pas, Dieu merci, je sais que c'est de s'enfuir dans une grande ville. Cette ville de Strasbourg me plaît, plus que je ne peux dire, j'aime ce caractère demi-allemand, quelque chose d'hospitalier, de libre. J'aime cette cathédrale si près de moi, j'aime le voisinage du Rhin. Il me fait penser à tout ce qu'il y a d'illimité dans l'histoire. » Et puis après, dans une lettre du 20 décembre, il annonce de quitter Strasbourg. Il se sent mal, il a la fièvre, il ne se sent pas à l'aise, c'est trop tentant, le Rhin est tout près, il va passer le Rhin, ça sera son passage du Rhin, et il décide de partir à Heidelberg, où il sait qu'il y a de grands professeurs, et où peut-être il pourra mieux étudier, mieux comprendre ce peuple, puisque grâce à sa traduction, il peut comprendre ce qu'ils disent et déchiffrer la langue allemande. Décidément, il me semble que ce climat de Strasbourg ne me convient pas trop, et je le quitte pour l'université d'Heidelberg sur le Neckar. Le Neckar, qui arrose la ville, la plus vieille université d'Allemagne, 1386, et Quinet écrira toujours pas Neckar, mais Necker. Depuis longtemps, j'avais ce projet en tête. Je vais voir de mes yeux l'Allemagne, peut-être le seul homme de génie qui reste dans ce pays, Friedrich Kreutzer. Historien, philologue, professeur à l'université depuis 1804. Avec cela, une vie nouvelle, un peuple à étudier, que de choses vont faire battre mon cœur. Cette connaissance m'était indispensable, tout languit pour celui qui n'a pas franchi les frontières de ce pays. Et nous allons passer maintenant un peu en musique, si vous le voulez bien. Nous sommes en Germanie, on va dire, eh bien, quelques notes de Jean-Sébastien Bach tirées du concerto brandebourgeois dédié à Charles-Louis de Brandebourg, un extrait du concerto numéro 11 sec des Brandebourgeois. Merci à Jean-Sébastien pour cet intermède. Nous retrouvons donc retrouver notre Edgar. Notre Edgar qui se rappelle toujours que sa grand-mère maternelle était d'origine du canton de Vaud et qu'elle avait été élevée outre-Rhin, une petite cour de Hesse, où son père était pasteur principal. Donc, il demeurera toujours un écrivain, historien et homme politique, ce penseur français. Et là, voici les mots de l'écrivain allemand Heinrich Heine, 1797-1856, qui écrivait toujours et qui avait beaucoup d'admiration pour notre Quinet. Il demeure toujours cet écrivain, répétait-il, historien, homme politique, ce penseur français par le sens et l'appétit de l'infini, par son âme mystique et religieuse, mais par le goût des généralisations hasardeuses et vastes, par celui des symboles, par ses dons de poète, il se révèle qu'il serait plutôt allemand, selon le mot donc de Heine, qui parle ironiquement un peu de la profondeur allemande, de la sensibilité allemande et du bourdonnement de hanneton allemand. Mais le poète Renan, qui est né à Düsseldorf, ajoute avec un petit peu moins d'ironie « Ce que je sais bien en tout cas, c'est qu'il n'y a pas dans le monde trois poètes qui égalent Quinet en imagination et en généralité. » Même si les Français n'ont pas fait de publicité, si on peut dire, ou n'ont pas loué Quinet, eh bien, le Renan, l'Allemand Heinrich Heine, lui, ne s'en prive pas. Et il quittera l'Allemagne ensuite pour s'installer à Paris, où il mourra en 1856. Il repose au cimetière de Montparnasse. On oubliera de dire aussi que Quinet a été très influencé par Germaine, Madame de Staël. Madame de Staël, dont son fameux ouvrage de l'Allemagne, paru en France en 1813, est déterminant pour Quinet. Parce que ce livre enchanta sa prime jeunesse. La première idée qu'il en reçut, il la garda jusqu'au jour, où son expérience personnelle, ses études, sa perspicacité intuitive et réfléchie, l'eurent modifié au point de faire de Quinet du plus fervent des admirateurs et des disciples l'ennemi le plus acharné. Que s'est-il donc passé pour, en somme, avoir cette vue différente, ô combien à l'opposé de la toute première? Au début, c'était l'idéal, c'était l'Allemagne sentimentale, rêveuse, poétique, enthousiaste, sincère, loyale, fidèle, un peuple de doux métaphysiciens, peu de caractère, sans patriotisme, impropre à l'action, capable d'indépendance et non de liberté. Voilà ce que représentait à son esprit l'esprit à l'écrivain cosmopolite. Et ce fut ce pays qu'il connut dès son premier séjour. À Heidelberg, il était bien placé dans cette université où il vivait, où il étudiait et connaissait beaucoup de monde. Dans ce paysage, notre éloquent et brillant philosophe Victor Cousin l'avait déjà un peu introduit, mais il trouvait que ce n'était pas assez et que c'était difficile pour Victor Cousin de faire aimer des Français les noms de Kant, Fichte, Schelling, Hegel, tous ces philosophes allemands qui étaient très étrangers par rapport à la France. Il n'y avait pas les moyens de communication d'aujourd'hui. La doctrine de Hegel, par exemple, était curieuse, un despotisme fataliste, l'apologie du succès de la force, le manque de sympathie, de charité. Oulala, cela était assez sombre, et cela passait mal dans une France catholique. Tout ce portrait teutomaniaque et pangermaniste, Cousin n'a pas su le voir. Mais il a montré un chemin intéressant à Quinet. Et Quinet emprunta ce chemin et il s'intéressa à cette étude. En 1826, on a vu que Quinet avait rencontré Herder, qui lit d'abord en anglais, bel exercice, et le traduit en allemand. Puis il apprend l'allemand, nous l'avons vu, pour mieux pénétrer la pensée de Herder, qui lui révèle sa vocation de la philosophie de l'histoire. Philosophie de l'histoire, très tôt, l'école prussienne s'est intéressée à l'Antiquité. Et l'école prussienne s'est intéressée à un grec, nommé Polybe, pas Polype, mais Polybe, un grec de l'Arcadie, on pense aux bergers d'Arcadie par exemple, la Grèce, qui avait été fait prisonnier par les Romains à la bataille de Pydna, qui s'installa à Rome et devient historien. Et pour l'école allemande et surtout prussienne, il est intéressant car il dit que l'histoire est une science et exige non seulement le respect de la vérité, mais encore une forte préparation technique. Et dans cette préparation, Polybe envoie trois, la recherche des documents et le classement des matériaux, l'examen des villes, des lieux, des fleuves, des ports, des terres et des mers, tant au point de vue de leur configuration que de leur distance, et tout cela est terminé par la connaissance des affaires politiques. Nous verrons qu'il attache beaucoup d'importance à la géographie, finalement aux cartes. Et Polybe est le premier qui ait vu que la géographie est le support de l'histoire. Il adjoint la géographie à l'histoire, il sépare l'histoire de la littérature et la définit strictement comme une science. Polybe exige de l'historien des connaissances techniques sur l'art militaire, sur la politique, et veut qu'il soit aussi philosophe. Tout cela intéresse profondément la Prusse, la future Prusse, qui s'intéressera plus tard à l'art militaire et donc et à l'art politique, bien sûr. Et cela nous rappelle cette citation de Napoléon, « La politique d'un pays est dans sa géographie ». Quinet va donc envoyer son travail à Goethe, comme nous l'avons dit, et en 1827, Quinet écrit à sa mère pour aller porter sa traduction aux sages de Weimar. Mais le voyage ne se fera pas. En octobre 86, donc, Strasbourg, on revient à Heidelberg. Là, il va s'éprendre quelque temps plus tard d'une jeune Allemande d'origine huguenote, Wilhelmine Moret, appelée Mina. Ce sera le début d'une longue idylle à l'Allemande, les fiançailles très longues, beaucoup de temps. Au milieu des joies et du travail, de la pensée, de la musique et de l'amour. À sa mère, Quinet écrira « Il est là le pays de l'âme, il y devient homme par la pensée et l'amour ». Il pense même quitter son pays natal pour s'installer dans cette seconde patrie. Mais, il reviendra quand même. Il reviendra quand même à Sertine. Il revient à Sertine. Il revient en France. 1830, la Révolution. Quinet prend le fusil, monte sur les barricades. Mais quelle déception. La Révolution avait suscité de beaux espoirs, mais cela se termine rapidement, malheureusement. A donc Quinet redescend, revient en France, là où il est le mieux. Il se retrouve à Sertine, à Bourg-en-Bresse. Mais il repart outre-Rhin, car Mina l'attend. Et puis l'appel de l'Allemagne, il trouve les populations d'outre-Rhin déçues. Que s'est-il passé en France? Beaucoup de choses ou peu? Elle ne compte plus sur la réunion à la France de la rive gauche du Rhin. Tiens. Aussi vont-elles se rallier à la Prusse? À ces territoires catholiques à l'ouest du pays aussi, qui travaillent à grouper autour d'elle toutes les forces germaniques. Depuis le traité de congrès de Vienne, 1815, après, il y existe une Prusse orientale depuis très longtemps à l'est, et voilà aussi une Prusse occidentale à province rhénane, avec un regard sur une rive du Rhin, face à la France. On découvre que ce peuple que l'on croyait impropre à l'action se réveille. Ce n'est plus le peuple décrit par Madame de Staël. Il veut réaliser son idéal. L'Allemagne intellectuelle et l'Allemagne politique sont étroitement liées et elles ne voient plus leur pays selon Madame de Staël, mais selon les philosophes Hegel et Fichte. Les amis allemands de Quinet ne parlent plus que de tirer leur rapière contre la France. Ouille, la première agression sur la rive gauche du Rhin. Il y a dans la famille Moret opposition au mariage du Français avec Mina. Un des trois frères détourne sa sœur du projet, qui rend sa parole au pauvre Edgar, déçu, quelque peu amer, mais effrayé. Mais cela va contribuer plus tard à lui ouvrir les yeux. Un de ses beaux-frères aussi, Johann Dittmar, professeur, proviseur de lycée, écrit une histoire de la Bavière qui interpelle Quinet, écrit une histoire de l'Allemagne qui l'interpelle aussi, et enfin une histoire de la Prusse qui interpelle Quinet, et notre Quinet se met à réfléchir sur ses tournants, sur ses nouveautés de l'histoire. Il observe beaucoup, y voit d'un coup le visage véritable de l'Allemagne transformée, jusque-là de haut. Aussi veut-il avertir, dénoncer et prévenir. Au mois d'octobre 1831, à Grünstadt, c'est-à-dire à l'ouest de Heidelberg, là d'où est originaire Lémoré, au milieu de ses illusions sentimentales et politiques, il écrit l'Allemagne et la Révolution avec son sang et ses larmes. La Revue des Deux Mondes, fondée en 1829 à Paris, accepte le manuscrit mais ne le publie qu'avec des coupures. En janvier 32, il est réimprimé, l'article en brochure avec des passages rétablis. Et ça va être une prochaine prophétie. En effet, elle déroule toutes les séries des faits à venir. Quinet devient un véritable visionnaire. Il prévoit la chute de Louis-Philippe. Il sent un avènement d'un ordre de choses nouveau qui va succéder au despotisme, c'est-à-dire au pouvoir absolu et arbitraire, et qui consacrera au règne du peuple après celui de la bourgeoisie. Toute la situation politique de l'Allemagne était clairement dessinée. Il dénote l'ambition de la Prusse. Il observe son rôle d'absorption, le danger créé à la France par une future unité allemande. Déjà dès 1831, Quinet prévoit que cette unité allemande se fera contre nous. Et enfin même, il va jusqu'à prévoir et à prédire la perte de l'Alsace-Lorraine. Mais en France, on oublie, on ne veut pas voir, on ne veut pas s'interroger sur ce que dit Edgar Quinet. Quinet, lui, il va ensevelir sa double douleur à Sertine. Il va aller à Sertine, car c'est un lieu où il vit, où il a besoin de se poser, de se retrouver toujours, quand l'Allemagne toujours le déçoit. Car il s'aperçoit et il se rend compte que, depuis longtemps, vu de France, eh bien, l'Allemagne a toujours un peu intrigué. Voltaire s'amusait de ces États dont on peut faire le tour en une demi-heure, disait le professeur Johann Chapoutot. Ses propriétés souveraines de principautés minuscules, chacun avait son duché, son comté, chacun avait, on jouait à l'empereur, chacun avait un royaume avec perruque baroque, un petit Versailles, un théâtre de verdure et une petite université. N'oublions pas que Voltaire fut hôte de Frédéric de Deux Prusse à Berlin et à Potsdam, surtout Potsdam, qu'il décrit comme un mélange de Sparte et d'Athènes, toujours la Grèce, où l'on fait tous les jours des revues militaires et des vers. Voltaire, sujet d'un grand royaume unifié depuis le XIIe siècle, eh bien, il découvre une Allemagne qui est nouvelle, qui est plurielle, qui est morcelée, qui est centrifuge, qui n'a pas la grande unité de la France. Et c'est là la grande différence avec notre pays. C'est pour ça que par la suite, eh bien, quelqu'un viendra unifier cette Allemagne disparate en morceaux, et qu'elle viendra se jeter dans les bras d'une Prusse qui, elle, ne cesse d'agrandir, et non pas de se diversifier, mais d'être de plus en plus gourmande. Et ce qui inquiétera beaucoup, beaucoup Edgar Quinet, qui très tôt va avertir du danger. En 1834, il épouse enfin Mina Moré. En 1836, il publie ses impressions de voyage, car il est allé aussi en Grèce. Il est allé à Lombardie et il invective les Teutons, tranquille. En 1840, le poète médiocre mais quand même utile allemand Nikolaus Becker, mais qui eut un moment d'heureuse inspiration, publie un poème intitulé « Sur le Rhin », adopté tout de suite comme chant patriotique par les étudiants allemands. Le refrain était le suivant « Ils ne l'auront pas, notre libre Rhin allemand ». Cela n'a guère plus en France. Et en 1848, voilà Quinet qui devient député. Et en même temps, en 1852, après le coup d'État, il sera un proscrit. Le voilà à Bruxelles. Et du fin fond de ses lieux d'exil, il reprend ses analyses clairvoyantes. Il sonne l'alarme dans les articles, dans les lettres. Chaque fois, l'Allemagne est bien formée. Elle a son caractère, son idéal. Aussi forge-t-elle les moyens de l'atteindre. La vanité démesurée de parvenus, dernière venue à la civilisation, susceptibilité hargneuse, puissance de haine qui se déchaîne surtout contre la France, sa rivale séculaire, un certain mysticisme aussi, une croyance en une mission civilisatrice confiée au peuple par Dieu lui-même, s'annonce le Dieu avec nous, Gott mit uns, l'esprit de domination universelle, cela annonce Guillaume II, impérialisme mondial, selon le mot qui a fait fortune. Notre visionnaire, lui, continue d'écrire, d'observer. C'est d'abord l'unité des Allemagnes, si ardemment désirée, mais pas par lui. Les autres veulent s'unifier, comme la France l'est depuis le XIIe siècle. Ensuite, la culture allemande est si supérieure à toute autre forme de civilisation qu'elle s'oppose surtout à celle dont la France a été jusque l'initiatrice. Une sorte de lutte sourde commence. Un pan-germanisme imposé par la science, l'industrie, le commerce et la force. C'est un pan-germanisme et c'est un mot qui va arriver, qui va alimenter très souvent les relations franco-allemandes. Et ce sera un mot, hélas, avec des effets bien sinistres. La Prusse, on parle moins de l'Allemagne, devient un État dominateur qui n'a pas, depuis un demi-siècle, cessé de réorganiser son armée. Mirabeau disait que la Prusse a une armée. Non, la Prusse est un pays qui a une armée. Il disait plutôt l'armée est vraiment la marque du pays de cette Prusse. La direction commerciale aussi va devenir importante. 1834, c'est la mise en place de l'union douanière, ce qu'on appellerait le Zollverein. Donc l'Allemagne devient économique. L'Allemagne, sous l'autorité de la Prusse, devient économique. Tout s'articule pour que cela devienne une union politique. Les universités aussi emboîtent le pas, la diplomatie, les armes, les explosions de passions populaires, les calculs des rois absolus, la révolution, la contre-révolution. N'oublions pas qu'en 1831, Quinet a prédit la venue d'un homme qui ferait l'unité. Eh bien, il ne savait pas que cet homme, c'était un nommé Bismarck, qui était, lui, né le 1er avril 1815. Et dans beaucoup de ses lettres, une quarantaine au moins, la patriotique et vigilante sentinelle jette le nouveau cri d'alarme. Car en 1866, il y a donc la Prusse, il y a la victoire sur l'Autriche de la bataille de Sadowa, 1866, coup de tonnerre, on attendait l'inverse, et Bismarck, avec ses ministres de la guerre et tout, continue, après la guerre des duchés, de former cette unité allemande. On a mis l'Autriche de côté, mais il a la sagesse, Bismarck a la sagesse de s'arrêter là, de ne pas foncer sur Vienne, parce qu'il sait très bien que la Grande-Bretagne, la France et la Russie lui seraient tombées dessus. C'est le fameux cauchemar des coalitions chères à notre cher Bismarck. On est loin de l'Allemagne prévue par Germain de Staël. Si nous nous la représentons, celle de Madame de Staël, c'était un pays d'extase. C'est un rêve continuel. Pas de guerre, des sympathies romanesques, un enthousiasme toujours prêt. Voilà pour les générations nouvelles. Mais aussi une vie de patriarche, des destinées qui coulent sans bruit comme les flots du Rhin, du Neckar et du Danube. Mais il n'y avait pas de désir, pas de lien, pas de force nationale. Et par malheur, Quinet va s'apercevoir que tout cela a changé. L'Allemagne erre un peu et finalement trouve sa voie en direction de la Prusse pour son malheur et pour le nôtre par la suite, car elle a cessé de rêver. Et la puissance la mieux amène de réaliser l'unité de pays sur des bases nationalistes et empêcher ainsi un ordre européen libéral n'est autre que la Prusse, qui représente une forme moderne de despotisme, dangereuse, qu'elle bénéficie, hélas, d'un large soutien populaire. C'est ce premier pouvoir d'une Allemagne qui va lui permettre de rallier cet ensemble géographique, historique, moral, mais morcelé qu'était l'Allemagne des penseurs et des poètes, à la différence de notre territoire un et unique. N'oublions pas aussi qu'à Mayence, la Bible est définitivement imprimée par Gutenberg en 1455. Et c'est le moine Martin Luther qui fera des Écritures son cheval de bataille, et que la Bible sera l'unique livre des familles d'Allemagne et de Prusse. Après le génie des lettres, qui va changer notre Allemagne, le second pouvoir, c'est Napoléon. C'est l'invasion de la Grande Armée en Allemagne. Le lien tissé au fond des âmes par la poésie et la philosophie a été cimenté par l'empereur, par le lien et l'action. Figurez-vous que ces populations, divisées depuis des siècles et rassemblées en sursaut par un malheur commun, l'invasion, l'occupation française, eh bien tout cela a remué les esprits. En même ces passions, ces langues, ces souverainetés éparses se mettent d'un coup à se relever, à tournoyer ensemble autour du même ennemi, le français, auteur d'une idée identique à tout cela. Et l'Allemagne va changer, et la Prusse va absorber cette Allemagne. Et Napoléon va être haï, lui l'usurpateur, lui l'envahisseur. Et cette Allemagne qui était incertaine, mais lyrique, est parvenue à se connaître uniquement que le jour où elle s'est heurtée à Napoléon. Alors commença-t-elle à connaître ce qu'elle pouvait vouloir, ce qu'elle pouvait valoir. Et musicalement, nous allons retrouver la musique de Maurice Ravel qui nous reposera un peu de tous ces bruits d'armes, de tous ces tracas. Nous retrouvons donc tous ces tracas, tous ces bruits, j'allais dire ces bruits de bottes, ces bruits d'armes. Mais la Prusse rappelle aux diplomates français, rappelle que sous Louis XIV, Louvois, ministre de la guerre en 1889, avait aussi été débarqué aussi dans le Palatinat. Et Louis XIV, en détruisant le Palatinat, donc la ville de Heidelberg, a monté l'opinion allemande contre lui. Les Français passaient autrefois pour une nation honnête, humaine, civile, d'un esprit opposé aux barbaries. Mais aujourd'hui, un Français et un cannibale, c'est à peu près la même chose dans l'esprit des voisins. disait Pierre Jurieux, dont la paternité du texte est consacrée quand même. En plus de l'opinion, cet acte incite les princes allemands à se joindre à l'empereur et à renforcer la coalition opposée à la France. Il s'est important de voir ce qu'en pense notre Voltaire. Et Voltaire de dire, c'est pour la seconde fois que ce beau pays était désolé sous Louis XIV. Les flammes dont Turenne avait brûlé 2 villes et 20 villages du Palatinat n'étaient que des étincelles en comparaison de ce dernier incendie, 1689. L'Europe en eut horreur. Les officiers qui l'exécutèrent étaient honteux d'être les instruments de ses duretés. Si le roi avait été témoin de ce spectacle, il aurait lui-même éteint les flammes. Les nations, qui jusque-là n'avaient blâmé que son ambition en l'admirant, crièrent alors contre sa dureté et blâmèrent même sa politique. Car si les ennemis avaient pénétré dans ses états, comme lui chez les soldats, ils eussent mis ses villes en cendres. Le danger était à craindre. Louis, en couvrant ses frontières de 100 000 soldats, avait appris à l'Allemagne à faire de pareils efforts. Et les efforts, ils les ont faits bien plus tard, mais ils ont la mémoire historique. Et donc, ce despotisme prussien va enfler encore plus. Ces considérations s'étendant à toute l'Allemagne sont surtout vraies de la Prusse, devenue, hélas, pour nous, une nationalité irritable et colère. Elle a pourtant des qualités, le travail, l'organisation, on est fort un peu dans tous les domaines, on voyage, on deviendra des chimistes, des compositeurs, mais aussi de grands capitaines et tout. C'est là que le Parti populaire a fait d'abord sa paix avec le pouvoir. C'est elle qui donne à l'Allemagne ce dont elle est le plus avide, l'action, la vie réelle, l'initiative sociale, la puissance, la force matérielle. Car ce despotisme prussien, nous dit Quinet, est intelligent, remuant, entreprenant. Il ne lui manque encore qu'un homme qui regarde et connaît son étoile en plein jour. Entre le peuple et lui existe une entente secrète pour ajourner la liberté et mettre en commun leurs ambitions à la poursuite du rêve et de la fortune du grand Frédéric de Prusse. Et Quinet va lui continuer et va toujours avertir. Mais nous n'entendons rien. Ils ont des oreilles, ils n'entendent pas. Ils ont des yeux, ils ne voient pas. Dans un courrier daté du 21 juillet 1886, 1866, peu de temps après la bataille de Sadowa, victoire de la Prusse sur l'Autriche, il écrit dans le temps, « On a déchaîné l'Allemagne, et l'Allemagne, je la connais, ne s'arrêtera pas. Elle grandira, elle sentira ses forces, elle nous les fera sentir. Elle aspirera à nous remplacer, à nous déprimer, à nous effacer, à nous avilir. » Prémonitoire, visionnaire, la suite, trois fois hélas, est bien connue. Et comme disait Eugène Lherminier, qui avait beaucoup écrit sur la politique intérieure, extérieure de la France et de l'Allemagne, « L'Allemagne se trouve une entre la France et la Russie, mais au-dedans d'elle-même, elle a peine à saisir sa propre unité. » Et il remarque que l'Allemagne est très mal placée en Europe. Elle est entre la Grande Russie, que tout le monde connaît, et la France, que tout le monde connaît ou ne connaît pas, hélas. Pour terminer, nous allons retrouver Heine, que nous avons trouvé au début. Notre Henri Heine, qui n'en perd pas une, si on peut dire. Et nous avons vu qu'il avait fui l'Allemagne. Il avait fui l'Allemagne, car juif, donc un peu menacé. Et il voulait épouser l'esprit français. Il épousa d'ailleurs une Française. Il s'établit à Paris en 1831 et il a publié en France, le 1er octobre 1834, un texte aux accents prophétiques destiné aux Français. Ce n'est pas du Quinet, mais ça pourrait l'être aussi. Que nous dit Heinrich Heine ? Et l'heure sonnera, les peuples se grouperont comme sur les gradins d'un amphithéâtre autour de l'Allemagne pour voir de grandes et terribles choses. Je vous conseille, Français, tenez-vous alors fort tranquille et surtout gardez-vous d'applaudir. Vous avez plus à craindre de l'Allemagne. On ne vous aime pas dans ce pays. Dans tous les cas, je vous conseille d'être sur vos gardes. qu'il arrive ce qu'il voudra en Allemagne, que le prince royal de Prusse ou le docteur Wirth parviennent à la dictature, tenez-vous toujours armé, demeurez tranquille à votre poste, l'arme au bras, nous avertit Edgar Quinet. Et pour finir, eh bien, nous allons revenir avec Quinet, nous allons revenir à Sertine, ce beau village qu'il aima tant. Et donc, avec ces quelques cette description du paysage, il nous parle de l'orientation de la maison, il nous parle des prés, les bois de Verne, le bois du roi, le potager, les fleurs, les buissons de roses, le pont rustique sur le ruisseau, les allées qu'il avait tracées à coups de serpe dans la forêt, le paysage borné par le Jura, les prairies, les étangs, l'avenue de Peupliers qui conduit au château de Montmort, le chemin vicinal. Et il parlera aussi de ce petit vin. Il y avait là-bas un petit vin de Journan, un cru du Jura blanc, assez gentil, piquant, moins bon que celui de Veto, en Suisse, mais en ce genre. Quand le tonneau était fini, on envoyait en chercher un autre à Journan. Sertine était comme dans les savanes d'Amérique. Aucun voisin, pas d'habitation. On jouissait d'une liberté de sauvage, avant tout d'une grande liberté. Et c'est avec ce mot de liberté que nous terminerons cette visite à notre ami Edgar Quinet. On lui souhaite bon anniversaire. Merci à Jimmy. Bon rétablissement à Gisèle, à laquelle nous dédions cette émission. Et maintenant, repartons en musique avec César Franck. Au revoir.